24 novembre 1983, théologie fondamentale sur les sacrements.
Nous allons continuer cette philosophie du geste pour comprendre les sacrements. Alors, n'identifions pas tout de suite geste et sacrement. Il y a un petit passage délicat. Mais je crois qu'il faut comprendre ce fondement, la parole et le geste. Alors nous étions arrivés à cette question, j'espère que vous avez solutionné ça vous-même, n'est-ce pas ? Comment se fait-il que le signe de la connaissance spéculative soit conventionnel et que le signe de la connaissance pratique soit naturel ? Donc il y a là quelque chose d'important à saisir. Très important, parce que ça permet de comprendre que le geste, signe de la connaissance pratique, a une universalité tout autre que la parole et une singularité toute différente aussi de la parole. On est en face de quelque chose qui est sui generis. Étudier. Alors, je crois que vous avez compris pourquoi le signe de la connaissance spéculative est conventionnel. C'est que la connaissance spéculative a un mode abstrait. Donc, ce mode abstrait de la connaissance spéculative, pour pouvoir se communiquer dans un exercice individuel, qui est le problème de la parole. La parole est un exercice individuel. Quand je vous parle, c'est un individu particulier qui parle et qui veut transmettre sa pensée. La pensée reste universelle et liée à la connaissance que nous avons de la réalité. Et la pensée a ce mode abstrait. Pour pouvoir se communiquer de manière concrète, elle se sert de signes qui ont une signification. Mais cette signification n'est pas donnée par nature. Le langage n'est pas donné par nature. Le langage est quelque chose que l'homme fait, que l'homme fabrique, que l'homme réalise. Comprendre ça. Donc, il le réalise en vue de la communication. Il ne le réalise pas uniquement d'un point de vue subjectif, comme un artiste. Un artiste fait une œuvre et il exprime ce qu'il porte en lui. Que l'œuvre soit reçue ou que l'œuvre ne soit pas reçue, ça n'a pas d'importance. L'œuvre existe. Tandis que le langage, c'est tout à fait différent. Si je dis, ah, peu importe, vous ne me comprenez pas, ça n'a aucune espèce d'importance. Hein. Moi, je suis un artiste. Alors, au milieu de vous, je fais une œuvre d'art. Que ceux qui comprennent, comprennent. Que ceux qui ne comprennent pas, ne comprennent pas. À ce moment-là, la finalité de la parole n'est plus respectée. Mais c'est la question de la finalité de la parole. La parole doit communiquer une pensée, et communiquer une pensée en passant par un langage qui est fait par l'homme. Et donc, il faut que ce langage fait par l'homme puisse exprimer, signifier ce que moi-même je pense. Or, j'ai la conviction profonde que tous les hommes pensent de la même manière. Parce qu'il y a une nature commune. Nous pensons tous. De nos expériences, nous pensons tous avec un facteur imaginatif et affectif, nous pensons tous en fonction du milieu dans lequel nous sommes, ce milieu varie et le conditionnement de chacun d'entre nous est différent, nous ne parlons pas de la même manière quand nous avons 15 ans ou quand nous avons 45 ou 50 et ainsi de suite, donc le langage prend des modalités différentes, mais il y a quelque chose qui demeure et quelque chose qui demeure, c'est ce contact de l'intelligence avec le réel. Je sais que ça demeure. Mais que pour transmettre ce que je pense selon un mode universel, selon une modalité universelle, à la réalité singulière, ou atteindre l'autre, qui reçoit toujours la réalité singulière, il faut nécessairement se servir d'un langage qui, lui, a une signification qui n'est pas naturelle, qui est conventionnelle en fonction de la communauté dans laquelle je parle. Parce que les communautés sont différentes. Et donc la signification attribuée au langage va impliquer quelque chose de conventionnel. La signification du langage est conventionnelle. Elle n'est pas naturelle. Mais le passage de l'universel au singulier, c'est-à-dire à travers telle ou telle communauté, qui, elle, varie, elles sont plusieurs, et la signification demeure. Au fond, c'est le pluralisme à l'intérieur même du problème de l'unité de la signification. Ce sera intéressant à bien saisir ça. La réalité est la même pour tous les hommes. L'univers dans lequel je me trouve est le même pour tous les hommes. Mon intelligence qui saisit cette réalité, j'ai la conviction philosophique que cette intelligence relève de la nature humaine et qu'elle est la même spécifiquement. Nous avons la même intelligence. C'est ça qu'on peut se comprendre. Si vous aviez une intelligence angélique, vous ne pourriez pas suivre le cours. C'est ce qui arrive de temps en temps. On est une intelligence angélique, mais là on ne peut pas suivre le cours. Parce qu'on est d'une autre planète. Et quand on ne fait pas attention, et qu'on se laisse porter par l'imaginaire, alors on est d'une autre planète. Donc notre intelligence ne suit plus et n'a plus ce contact avec le réel. Et puis je transmets à une autre intelligence qui est communique par le langage. C'est la fameuse question de Platon. Est-ce que ce sont les mots qui spécifient mon intelligence ou la réalité? Et donc c'est toujours le même problème. Est-ce que c'est mon langage qui détermine mon intelligence? La réalité. Quand je vous parle, qu'est-ce qui est impressionné en vous? Qu'est-ce qui est impressionné? C'est votre sensibilité, votre imagination. Chaque fois que je parle, il y a une petite image qui se fait, immédiatement. Petite image. Et cette petite image, si vous voulez penser, va vous servir de véhicule pour rejoindre la pensée transmise par le langage. Or, cette intelligence fait partie d'un milieu. Comme mon intelligence fait partie du milieu, il y a quelque chose de commun, c'est cette communauté dans laquelle nous baignons, une communauté qui implique une culture semblable. Et le langage implique et lié à cette culture. Et c'est là où, justement, nous trouvons le point de vue conventionnel. Parce que c'est la communauté qui invente le langage et qui porte le langage. C'est pas seulement l'individu. C'est bien l'individu qui forme la communauté, mais le langage est différent. Il est différent selon toutes les communautés. Sans parler, il y a des dialectes différents, mais il est différent selon toutes les communautés. On ne parle pas de la même façon quand on fait un cours à des religieux ou quand on fait un cours à d'autres personnes qui sont tout à fait dans une autre planète. On doit commencer par les religieux. Tandis que là, on sait qu'ils sont éveillés, déjà un certain moment. Alors tout de suite, on va tout de suite directement au but, mais pas plus vite. Il y a des tas de choses différentes, vous voyez. Donc le langage est différent. C'est vrai, il est conventionnel. Il est conventionnel, il dépend de la communauté. Et il est conventionnel, pourquoi? Parce que la soniatus, hein, mon intelligence est abstraite. Elle abstrait. Alors, le mot, la signification, c'est ça qu'il faut bien comprendre. La signification du concept est une signification qui provient de la réalité. Mais le simple concept formalise la signification. Dans la réalité, la signification n'est pas formalisée du tout. Il faut définir ce que c'est que tel animal. Il faut définir ce que c'est que telle réalité. Et ça, c'est l'intelligence qui formalise. Donc, la formalisation de la signification est dans le concept. Et c'est cette signification qui est transmise à travers les mots pour que l'autre, l'intelligence de l'autre, l'intelligence de l'auditeur, reçoive cela. Le mot n'a pas par lui-même de signification. Il y a une signification qui vient du concept et qui est liée à tel langage. Le langage comme tel ne donne pas la signification. Faiblesse de la philosophie analytique moderne. C'est que le mot ne porte, le mot est porteur de signification, mais il n'invente pas la signification. Le mot est porteur de signification, et la signification vient du concept, c'est le concept qui est source de la signification formelle, c'est lui le point de départ de la signification formelle. Fondamentalement, c'est la réalité. Fondamentalement, c'est la réalité. C'est la réalité existante. Donc, fondamentalement, c'est ce qui est. C'est l'être. Fondamentalement, c'est l'être qui est porteur de signification. L'être donné de telle ou telle manière, l'être donné dans telle ou telle nature. Fondamentalement, formellement, c'est le concept. Et dans la communication, c'est le mot, c'est le langage, qui, alors, a des modalités différentes. Et selon ces modalités différentes, cette signification va se moduler différemment, va prendre des modifications différentes. L'auditeur qui fait partie de la même communauté, si l'auditeur fait partie d'une autre communauté, devra s'adapter. Ou celui qui parle devra s'adapter. C'est dans toute adaptation. En se servant des mots du milieu dans lequel se trouve l'auditeur. Pour transmettre à travers ce langage conventionnel la signification qu'il a. C'est ça qui est très curieux. C'est pas commun cette communication. On comprend très bien. Et c'est un des gros problèmes d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on doit y réfléchir, ça. Il n'y a pas de cours particulier sur la philosophie du langage, mais en fond, c'est un peu le cours que nous faisons. C'est le cours que nous faisons. Vous voyez, il y a deux cours sur lesquels on va insister sur la philosophie du langage. Le point de vue de l'inspiration. La parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu? La signification de la parole de Dieu. Et d'où vient-elle? La signification de la parole de Dieu. Quand Dieu me parle, c'est une signification qui est divine, que seul le croyant comprend, l'auditeur qui reçoit. Alors il faut arriver à faire une théologie de la parole de Dieu, à partir de cette philosophie du langage. Et vous comprenez que cette théologie de la parole de Dieu va être différente, suivant que j'ai telle ou telle philosophie du langage. Si j'ai la philosophie du langage qui fait que le mot renvoie au concept, ou au contraire, si le mot est pris pour lui-même. Il y aura deux philosophies de langage totalement différentes, et donc deux théologies, deux exégèses totalement différentes. Ça, c'est très très important de comprendre ça. Ça, il faut arriver petit à petit à comprendre. Donc, le mot transmet. Vous voyez pourquoi le mot implique quelque chose de conventionnel. C'est parce que il y a un passage de l'universel au singulier, de l'intelligence à la sensibilité. Alors ce passage se fait par l'abstraction dans la montée de la réalité à l'intelligence. La réalité pénètre dans l'intelligence par l'abstraction. Et il y a un autre passage, le passage du concept de ce que je pense à l'intelligence de l'autre, non plus par l'abstraction, mais par le point de vue de la composition. C'est pour ça qu'il y a une composition artistique de l'universel au singulier. Et abstraction, et au contraire, le point de vue de la composition. Et je compose avec un langage qui préexiste. Ce langage préexiste. Je n'ai pas inventé le langage. il préexiste, et ce langage, il préexiste, et j'essaie de m'en servir le mieux possible pour communiquer ce que je pense. Je sais qu'il ne sera jamais complètement adéquat à la signification profonde que j'ai. C'est la souffrance de tout professeur. C'est la souffrance de tout professeur, c'est qu'il est obligé de passer par un langage pour transmettre ses idées géniales. Alors, ses idées géniales sont ineffables parce qu'elles sont géniales, n'est-ce pas ? Et il est obligé de transmettre dans un moule commun. In commun, le langage de tout le monde. Il est obligé. Alors, s'il est artiste, il va inventer des mots, ce sera encore plus incompréhensible. Parce que ce sera ce mot plus incompréhensible. Et c'est vrai, alors il s'enfermera dans son langage en disant, c'est ce que je veux. C'est tellement puissant ce que je dis, vous ne pouvez pas comprendre. Parce que le langage ne peut pas être adapté. Si au contraire il se dit, non, il faut accepter cette chute, hein, c'est une chute terrible, du concept au langage. Il accepte de passer par cet aspect conventionnel, un langage qui existe déjà et qui n'est pas adéquat à ma pensée. Parce que le langage est univoque et la pensée est analogique. Là, il y a nécessairement une chute. Et c'est pour ça qu'il est obligé quelquefois d'employer des mots différents pour essayer d'exprimer une réalité. Saint Augustin dira qu'il prendra des flûtes différentes. Des flûtes aiguës et des flûtes graves. N'est-ce pas ? C'est le langage que Saint Augustin, c'est très joli. Il prendra des flûtes différentes, parce qu'il prendra des mots différents, selon les conventions différentes, pour essayer d'exprimer quelque chose qu'il conçoit profondément. Et essayer d'adapter, faire communiquer par ce langage. Et c'est pour ça que dans le langage vivant, ça ne sera jamais adéquat. Donc il y aura toujours possibilité de confusion, selon capacité du récipient, la capacité de l'auditeur. L'auditeur reçoit le langage. Et quand il n'est pas habitué du tout au langage de celui qui parle, il le reçoit quelquefois diamétralement opposé. C'est extraordinaire de voir ce que les gens peuvent vous faire dire, et la manière dont ils le reçoivent. C'est quelquefois très décevant au point de départ. Je n'arrive pas à communiquer ce que je porte. Et c'est vrai, je n'arrive pas à communiquer ce qu'on porte. Il faut du temps. Ça, on fait son auditoire. Et l'auditoire fait son professeur. C'est vrai, il y a comme une espèce de commune mesure qui se fait progressivement par le point de vue affectif et par le point de vue intellectuel. Et alors à ce moment-là, la communication se fait beaucoup plus vite. Il y a une rapidité dans la communication. Et la communication se fait beaucoup plus adéquatement. Mais quand la communication ne se fait pas, on pose des questions. Comment se fait-il que vous dites ça ? Je ne vois pas. Il y a toujours possibilité d'équivoque. Parce qu'il y a inadéquation entre les deux. Donc ça, c'est facile à comprendre. C'est pour ça que le langage est conventionnel. Et je crois que la raison profonde du langage conventionnel, c'est le but même du langage qui implique la communication d'idées au niveau abstrait, au niveau des principes. Donc une signification qui, elle-même, ne peut pas se communiquer directement, puisqu'il n'y a pas communication d'esprit à esprit. Ça se fait en passant par un langage singulier. Et en passant par ce langage singulier, puisqu'il y a de fait une abstraction universelle, il y a quelque chose donc qui nécessairement va impliquer une convention. Le langage, je n'invente pas. Très curieux. J'invente beaucoup plus mes gestes. Non, je passe au geste. J'invente beaucoup plus mes gestes. On ne m'a pas appris, oui, de temps en temps, vous savez, conventionnel. Anciennement, on faisait des sermons, on vous apprenait à faire tel geste, à tel moment, exactement, c'est pas qu'il fallait. Alors, c'est pas battre la musique, il fallait le faire exactement, pour moduler exactement. Bon, alors ça, on apprenait lui-même ça. Celui qui domine parfaitement. Il est original dans ses gestes. Au début, oui, il y aura quelque chose de commun, mais au fond, il est original dans ses gestes. C'est très curieux, les gestes ne s'apprennent pas. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi le geste est beaucoup plus naturel. Et pourtant, il y a quelque chose aussi de conventionnel dans le geste. Il y a les deux. il est naturel et il est conventionnel, dans la mesure où le geste est appuyé par la parole, ou dans la mesure où le geste est en référence avec la parole. Là, il y a quelque chose de conventionnel. Parce que le geste accompagne la parole, c'est sûr. Le geste accompagne la parole. Mais le geste aussi peut être pris pour lui-même. Une mime. Vous regardez, silence absolu. Mimer, c'est extraordinaire de voir ce que ça signifie. Et la parole diminue la signification du geste. C'est très curieux. Elle relativise la signification du geste. Et quand il y a un élément affectif très très fort, soit du côté artistique, soit du côté purement affectif, la parole se tait. Il n'y a plus que le geste. Il n'y a plus que le geste. À ce moment-là, le geste a une force beaucoup plus grande. Ça, c'est sûr. Il s'impose. Tandis que quand il est relatif à la parole, on pourrait très bien se passer du geste et ne garder que la parole. Alors, vous voyez, c'est qu'il faut essayer de comprendre. Le geste exprime, je vous avais dit la dernière fois, nos états affectifs, en premier lieu. Or, nos états affectifs n'ont rien d'abstrait. Nos états affectifs sont toujours singuliers. Toujours. Nos états affectifs saisissent notre esprit, notre sensibilité, nos passions. Parce que nos états affectifs sont toujours concrets, le geste va pouvoir exprimer ses états affectifs et les exprimer dans leur singularité, les exprimer tels qu'ils sont. C'est en ce sens-là que le geste qui exprime un état affectif n'a pas besoin de convention, puisqu'il exprime un état affectif singulier. Et puis, comprenons bien aussi, c'est que, de fait, le geste exprime nos états affectifs. Dans les états affectifs, quelle est la signification des états affectifs? Réfléchissez sur vos états affectifs. Le sentiment qu'on a, rendez lucides vos états affectifs. Les états affectifs de vous vous sentez bien ce matin. J'espère. Vous sentez bien ce matin. Il fait beau. C'est merveilleux de voir le lever du soleil dans le TGV. C'est merveilleux. C'est beau de voir ça. Alors on est bien. C'est beau. On est bien. Et affectif. Vous n'y réfléchissez pas trop parce que si vous y réfléchissez trop, vous le supprimez, l'état affectif. Alors quelle est la signification d'un état affectif? Pas grand-chose comme signification. Je le vis. L'état affectif n'a pas tellement de signification. Oui, il en a une, mais une signification très très subjective. C'est pourtant ça, mes états affectifs, que je veux exprimer. La bonne humeur, la mauvaise humeur, je suis en opposition, ma haine, ma révolte, les états affectifs. Alors, je les exprime par des gestes. Les gestes expriment mes états affectifs. Et dès que je veux réfléchir sur la signification de ces gestes, c'est spontané, c'est comme ça que je fais. Ces états affectifs s'expriment dans des gestes, ils s'expriment aussi dans une communauté. Ah. Alors c'est à ce moment-là où l'état affectif s'exprimant dans une communauté ont une norme. Vous seriez seul. Vous aimez, en vous réveillant, de crier très haut. Après tout, c'est une manière de se réveiller, quoi. On vous dit, ah non, 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 parce que vous réveillez tout le monde en communauté. Faites pas ça. Alors ne criez pas. Donc, vous voyez, on vient mettre une petite norme. Une petite norme à vos états affectifs. Alors que normalement, votre état affectif devrait être spontané. Alors, on vient régler. Alors, à partir de là, vous êtes source d'un refoulement. Geste affectif. Alors, ne vous étonnez pas si 8 jours après, ce sera quelque chose au carré. Parce que de fait, il y a eu un refoulement d'un geste. C'est vrai, il y a eu un refoulement d'un geste. L'éducation. Qu'est-ce que c'est que l'éducation? L'éducation regarde les gestes en premier lieu. On vous apprend à manger proprement, comme on dit. Mais après, qu'est-ce qui vous dit que c'est proprement? C'est conventionnel, ça. On vous apprend à vous servir avec une cuillère, une fourchette, un couteau, alors que c'est pas si vieux avant qu'on prenait le main. On prenait tout simplement ce qui était dedans et ça allait mieux. Directement, c'était plus direct. Il n'y avait pas l'intermédiaire d'une fourchette, d'un couteau. Des gestes, hein, se servir d'instrument. Ah, dès qu'il y a un instrument, il y a une convention. Dès qu'il y a un instrument, il y a une convention. La fourchette pourrait être faite pour piquer le voisin. Plutôt que de piquer le bifteck, hein, c'est pour piquer le voisin. Et le couteau il pourrait être fait là pour se défendre. Hein. Après tout, on vous sert des fourchettes et des couteaux. Pourquoi? Ah, il faut se défendre. Et non pas se servir de ce qui est dans votre assiette. C'est conventionnel, ça. C'est intéressant, du reste, de quelquefois, d'être dans des pays où on ne se sert pas de fourchette et de couteau. Et voir comment on fait. Maintenant, c'est rare. Hein. Il faut venir dans des pays où il y a encore quelque chose de tout à fait primitif. Il n'y a pas de fourchette, pas de couteau. Et alors, vous voyez, là, le point de vue de l'intervention dans le geste d'une éducation, ce que vous appelez une éducation. Et l'éducation, c'est faire que le geste va se servir d'un instrument. C'est curieux. Donc le geste va se compliquer de quelque chose de conventionnel. L'instrument est conventionnel. Il n'est pas naturel. Il est conventionnel. Quand vous prenez votre soupe avec votre cuillère, ou quand vous servez de votre couteau, plutôt que directement de prendre la pomme sans couteau, vous revenez à la nature. Ça vous aimez tellement de croquer dedans. Parce que c'est naturel. Alors c'est l'être sauvage qui se retrouve lui-même, voyez, et qui aime de se retrouver lui-même, supprimer la convention. C'est une manière de se rattraper, hein, pour se défouler après tout. Vous défoulez en prenant une pomme, en croquant la pomme. Vous défoulez de toute espèce de convention par rapport au geste. C'est très bon. C'est un petit défoulement facile à faire et qui n'est pas mauvais, celui-là. Parce que vous supprimez le geste intermédiaire. Or, défouler, c'est supprimer les intermédiaires. Tout le temps. Et c'est de revenir à l'être sauvage. On a besoin de gestes naturels. On a besoin de gestes naturels. Et quand on a vécu dans un milieu trop conventionnel, on est refoulé quant à ces gestes naturels, et alors on revient aux gestes sauvages. Et on aime de proclamer le geste sauvage. Beaucoup plus que par la parole. Le geste a quelque chose de plus naturel. Et donc il nous défoule mieux. Le geste nous défoule bien plus. Le cri et le geste nous défoulent bien plus que la parole. C'est un défoulement, là. Parce que le geste est lié, vous voyez, au corps. Il est lié à l'appétit naturel. Je crois que là, nous comprenons que le geste a une signification beaucoup plus pauvre que la parole. Parce qu'il est lié à l'état affectif. Et que l'état affectif n'a pas tellement de signification. Il en a une. Alors c'est là où il faut essayer de préciser. Je vais ajouter un nouvel élément pour que nous précisions mieux. Est-ce que l'animal fait des gestes? L'animal crie. L'animal, vous savez très bien qu'on a constaté que l'animal n'avait pas de refoulement. Donc pour montrer que vous êtes un homme, ayez beaucoup de refoulement et vous vous distinguez de l'animal. C'est une manière de montrer qu'on est homme à sa manière. C'est quelquefois la seule qui reste. Alors, on montre qu'on a des refoulements. Mais c'est vrai que l'animal n'a pas de refoulement. L'animal, il a des cris, il a des gestes de défense. Des gestes de défense très curieux, du reste que l'homme souvent interprète très mal. Pourquoi le serpent vous pique? C'est pour se défendre. Et vous croyez qu'il est méchant? Est-ce qu'il a eu peur? Pauvre petite bête. Mais ben, alors il fait ça. Pourquoi le chien aboie? Parce qu'il a peur. S'il n'avait pas peur, il n'aboierait pas. Donc, il a peur. Il se met à aboyer. Il se défend. Quelle est la signification du cri de l'animal? Quelle est la signification du geste du chat? Quelle est la signification du geste du chien? C'est important, vous voyez? Parce que le geste humain est entre la parole et le cri de l'animal. Il est entre les deux. Alors, l'animal, je veux bien qu'il ait des gestes, mais est-ce que le geste de l'animal a une signification? Ou est-ce que c'est moi qui interprète? Est-ce que le geste de l'animal est-il lié à son corps et à ses appétits naturels? Alors, il est lié à l'appétit naturel pour sa nourriture. Et la seule signification du geste de l'animal, c'est en vue de la nourriture et de la procréation. Je crois, c'est l'appétit naturel. C'est le geste qui est lié directement à son appétit naturel. Tandis que le geste de l'homme est différent. Pourquoi? Nous avons dit que l'âme est la quiddité du corps. Ça, c'est très important. L'âme est la quiddité du corps, pour l'animal aussi. Mais l'âme de l'animal n'a pas d'autre finalité que l'aliment et la procréation. C'est pour ça que tous les gestes de l'animal sont liés à l'aliment et la procréation. Et leur signification provient de l'aliment et la procréation. Mais parce qu'il vit en contact avec d'autres animaux, il peut y avoir un aspect de défense. Bien compliquer la situation. Je crois qu'en effet, c'est quand l'animal est privé de sa nourriture qu'il se défend. C'est quand l'animal est privé de la procréation qu'il se défend. Les deux aspects. C'est très curieux, la défense. Et alors, c'est là où il y a une sorte de refoulement. Il est comme attaqué. Il y a un refoulement instinctif, il est arrêté, il manifeste là, et son irascible est très développé à ce moment-là. Donc vous avez des gestes de défense et d'attaque, que l'homme interprète à sa manière, mais au fond qui sont tout simplement l'irascible. Normalement, il y a le concupiscible vers l'aliment et vers le point de vue de la procréation, qui sont les deux gestes qui me semblent être les plus naturels. Et dès qu'il y a l'irascible, l'irascible, c'est la défense. Alors là, ça implique une attaque qui développe l'irascible. L'irascible se développe énormément quand vous êtes en état de lutte. Et chez l'animal, le point de vue de l'état de lutte va développer énormément l'irascible. Et donc va développer énormément ses gestes de défense. Pour l'homme, quelque chose de nouveau se pose. C'est l'homme qui interprète les gestes de l'animal. Tandis que l'homme interprète ses propres gestes, normalement. Ces gestes ont une signification. Alors j'ai dit que les gestes, c'est le prolongement du corps. Si le corps a son intelligibilité par l'âme, tous les gestes ont leur intelligibilité par l'âme. Alors vous voyez, là intervient le point de vue de l'âme, va intervenir donc le point de vue de l'appétit spirituel. L'appétit spirituel a quelque chose d'universel. Par le fait même, on va voir la possibilité pour l'homme d'une interprétation de ses gestes qui va pouvoir être conventionnelle. Donc les gestes humains sont pris entre deux aspects. Les gestes de l'homme sont toujours pris de deux manières. Le point de vue de l'appétit naturel. Par où il est semblable à l'animal. Et ça joue un rôle très important. Et l'appétit spirituel. Pardon, il touche un bien spirituel qui a une certaine universalité. Quelque chose d'universel, cet appétit. Cet appétit est toujours singulier, porte toujours sur le bien existant. Mais il a quelque chose d'universel, ce bien spirituel. Et par le fait même, les gestes, qui sont toujours singuliers, par rapport à cet appétit spirituel, peuvent avoir quelque chose de conventionnel. Il y aura des gestes qui seront au-delà du conventionnel, les gestes instinctifs, que nous avons tous, les gestes instinctifs. Fricarer Barba, se gratter le nez. C'est des gestes instinctifs. C'est ça, rien de conventionnel. Hein. Rien du tout. C'est pour ça que c'est si important. Parce que c'est... Donc là, on retrouve l'être sauvage. Hein. L'être sauvage, c'est sûr. Et dans la mesure où l'aspect spirituel diminue, cet aspect-là prend une importance de plus en plus grande. Et puis, il y a des gestes qui sont liés à l'appétit spirituel. Et alors, je crois que dans ces gestes qui sont liés à l'appétit spirituel, vous avez l'éducation. L'éducation joue. On mange en communauté, ou on mange solitaire. Et il y a des mœurs de manger d'une manière monastique, il y a des mœurs familiales. On ne mange pas de la même façon. Il y a des mœurs monastiques. Alors, il y a l'éducation. Et ceci, c'est l'appétit spirituel qui va se servir d'instrument. Ça sert d'instrument, d'une manière d'être. C'est là où on va retrouver des gestes liturgiques. Les gestes liturgiques, c'est des gestes qui impliquent nécessairement quelque chose de conventionnel. Et pourtant, il y a un fondement naturel. Quand les vieillards de l'Apocalypse jettent leur couronne pour adorer, est-ce que c'est un geste naturel ou conventionnel? Et la part du naturel et du conventionnel. Dans la mesure même où vous êtes lié à un but spirituel, le conventionnel peut augmenter. Parce que vous faites partie d'une communauté qui n'est pas naturelle. La communauté chrétienne a un fondement naturel, mais elle n'est pas naturelle. Alors cette communauté, oui, c'est par là que je vais ajouter, je vais faire intervenir le point de vue du sacrement. Les sacrements reposent sur une institution, et ils sont des gestes. Si je ne voyais pas dans le geste la possibilité d'intervention d'une éducation, je ne comprendrais pas le lien qui existe entre les gestes et les sacrements. Mais puisque déjà au niveau naturel, je vois que les gestes impliquent une éducation. Pourquoi? Parce qu'il y a l'appétit spirituel. S'il n'y avait que l'appétit naturel, il n'y aurait pas d'éducation au sens plus propre. On n'éduque pas l'animal. On le dresse. Alors en le dressant, je peux lui apprendre des gestes qui n'ont rien à voir avec son appétit naturel. Quand un éléphant se met à jouer du piano, c'est en dehors de son appétit naturel. Absolument. Il joue du piano. Quand un dauphin fait des sauts extraordinaires au Canada, on voit ça admirablement, ça, aux chutes du Niagara. Il y a là, c'est merveilleux. Il faut aller voir les chutes du Niagara, c'est un peu loin, hélas. Mais si on le pouvait, il s'était à côté, après le cours, on irait voir ça. C'est extraordinaire de voir les gestes de ces dauphins admirables qui apprennent des trucs. Un vrai soldat, c'est artificiel. C'est un dressage. Ça n'a plus rien de naturel. C'est évident. On voit comment l'homme se sert de ce petit dauphin, de ce gros dauphin, pour pouvoir exprimer des choses artistiques, des danses merveilleuses, étonnantes. Rien de plus, rien de naturel. Purement conventionnel. Purement conventionnel. Purement artistique. Vous voyez, le dressage est purement artistique. Il n'est plus lié à la causalité finale, il est lié uniquement à la causalité exemplaire du maître qui fait ça. C'est un dressage. C'est une pure formalisation. C'est un dressage. On dresse. Et dans les gestes, hein, extraordinaire. Et quelquefois aussi dans les paroles, le fond sont des cris. On leur fait crier. On leur fait beugler. On leur fait faire des choses particulières. Et alors c'est le dressage qui intervient ici. C'est le dressage. Comment l'homme domine l'animal en impliquant quelque chose qui est de l'ordre de la causalité exemplaire. Et l'homme, il dresse l'animal. Dans l'éducation, ce n'est pas un dressage. Mais il peut y avoir une éducation qui est un dressage, vous voyez. Et c'est ça qui est toujours très délicat. L'éducation doit être non pas un dressage. Parce qu'au bout d'un certain temps, l'homme se venge. Hein, quand il est. Si on le fait faire des choses qui sont complètement en dehors de son. De sa finalité, il y a des lendemains du dressage chez l'homme. Chez l'animal, c'est différent. Je ne sais pas s'il y a des revendications. C'est intéressant de voir si les pieux dauphins ne sont revendiqués enfin. Et ils vont alors manger celui qui les a dressés. C'est une manière de se venger. Pendant toute ma vie, j'ai été là à ton service maintenant. Hein? Là, il reprend ses droits. Là, il reprend ses droits de cette manière-là. Je sais pas, ça peut exister, hein, ce serait curieux. Parce qu'alors, on reverrait la manière dont l'appétit naturel se venge. Si pendant toute sa vie, j'étais au service de la causalité exemplaire, hein, étant au service de la causalité exemplaire, je n'ai pas... Remarquez qu'ordinairement, hein, ordinairement, c'est toujours accompagné d'un petit beefsteak. Vous savez, c'est toujours accompagné. Il a bien dansé, il a bien sauté, on lui donne tout de suite une nourriture. Hein? Et on voit très bien, et ça je crois pour supprimer le refoulement. Alors bon, on lui donne immédiatement le petit poisson après, tout de suite la nourriture qui vient après, parce que c'est nécessaire. Parce que, oui, parce que par la causalité exemplaire, on est loin de l'appétit naturel, il faut le remettre. Et là c'est toujours remis, la petite récompense est donnée, et la sucette est donnée, juste après. Hein? Une sucette adaptée, n'est-ce pas, qui est particulière. C'est le point de vue, donc de... l'appétit naturel qui doit reprendre ses droits. Dans l'éducation, il y a donc quelque chose qui intervient. Une véritable éducation ne devrait avoir rien d'artificiel. Elle a toujours quelque chose d'artificiel. Elle ne devrait rien avoir d'artificiel. Et donc, elle devrait arriver à faire que les gestes soient le plus possible en conformité avec l'appétit spirituel. Et il y aura toujours quelque chose d'artificiel en fonction de l'élément communautaire. C'est la communauté qui va impliquer dans l'éducation quelque chose d'artificiel. Et c'est impossible autrement. Alors on doit diminuer la frange artificielle le plus qu'on peut, mais elle existera toujours. C'est le problème de la communauté. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir de ces rognes profonde contre la communauté. Parce que la communauté apporte un élément qui fait que dans l'éducation, il y a quelque chose qui n'est pas entièrement naturel. Alors la petite communauté qui est la famille peut diminuer, mais dans toute famille, il y aura quelque chose de conventionnel. Parce qu'à côté de cette famille, il y a une autre famille. Et il y a une troisième famille. Il y a une quatrième famille. Alors, le petit gosse qui va dans l'autre famille, tiens-toi bien. Tu peux faire ça chez nous, ça n'a pas d'importance, on te comprend, mais pas chez le voisin. Vous voyez, alors dès que vous dites ça, c'est l'élément conventionnel. Chez nous, on comprend. Tu ne manges pas, ça n'a pas d'importance. Mais le voisin, il ne comprendra pas si tu commences à faire ça. Alors, fais attention, l'élément conventionnel qui intervient immédiatement dans le geste. La philosophie du geste, c'est très très important. On ne l'a pas assez étudié au point de vue proprement éducation pour essayer de comprendre comment intervient dans l'éducation l'élément qui fausse, qui est le dressage. Et alors ce qui est très curieux, c'est que les psychanalystes n'ont pas assez étudié ça. Je suis persuadé que ça leur donnerait beaucoup plus d'éléments. Parce que c'est de comprendre que l'incarnation se fait par le geste. Et l'incarnation se faisant par le geste, alors là, on peut saisir comment il peut y avoir des arrêts. Il étudie, il commence à l'étudier de plus en plus. Mais c'est quand même là où je crois on aurait les nœuds les plus violents du retour sur soi, de l'inconscient qui se met de cette manière.